Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et pour ce dernier épisode de notre session avec Jean et Guillaume, on vous a réservé des recommandations d'une qualité rare, des gemmes, des perles que vous ne pouvez pas manquer. Et on va commencer immédiatement en demandant à mes deux co-animateurs s'ils vont bien aujourd'hui.
Ça va merveilleusement bien, Patrick. Ah, oh, ravi de vous retrouver tous les deux.
Bonjour, je suis pas content, c'est le dernier.
Écoute, pour terminer, je vois ta recommandation. Là, je vois qu'on va terminer sur une note joyeuse encore.
Voilà, c'est pour ça. J'ai fait exprès. Je suis pas content, c'est la fin. Je suis pas content.
Très bien, très bien. Non, mais écoute, je vais laisser la surprise pour dans quelques minutes. Et je vais commencer, moi, avec une série à laquelle j'aimerais écrire une lettre d'amour. C'est une série qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est, j'ai même du mal à la décrire. C'est pas la meilleure série que j'ai vue de ma vie, mais c'est une série que j'ai vraiment qui m'a vraiment touché et par sa, pas juste sa qualité, mais son honnêteté dans tout ce qu'elle fait. C'est une série qui s'appelle The OA. C'est une série sur Netflix. Comme je le disais, je la recommanderai pas à tout le monde. C'est une série vraiment qu'on peut recommander aux fans de ce genre de truc. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? C'est un genre que j'appellerais de la science-fiction d'auteur. Presque, c'est-à-dire que c'est vraiment de la science-fiction, mais c'est écrit et réalisé avec comme un film d'auteur. Il y a une lenteur dans le propos, il y a pas de truc absolument invraisemblable qui se passe, il y a pas de monstre, il y a pas de voyage dans l'espace, il y a pas de, enfin c'est pas un truc de science-fiction au sens où on entend science-fiction, c'est juste une série. En fait, c'est pas science-fiction, c'est plus fantastique. Je crois que je parlais d'un truc comme ça il y a quelques mois. Je sais plus de quoi je parlais. Stranger Things, je crois.
Moi, j'avais vu le premier épisode de OA et ça m'a fait beaucoup fait penser à Stranger Things.
Ouais. Bah écoute, c'est peut-être, il y a un petit lien de filiation, un petit lien de parenté peut-être, mais The OA, c'est encore plus neutre. C'est encore moins dans le fantastique, quoi. Je vais faire le pitch de départ. Il y a en fait et c'est très difficile de ne pas spoiler. Moi, je déteste les spoils, mais donc je vais juste faire le tout début. Il y a quelqu'un qui filme avec son téléphone sur un pont et on voit une fille qui marche sur le pont, qui est, je crois qu'elle a presque pas de vêtements, elle est genre dans une robe d'une petite robe alors qu'il fait froid, et elle marche sur le pont, elle va au bord du pont et elle saute. Et elle saute, et donc évidemment les gens sortent, elle c'était une tentative de suicide, machin, on la retrouve à l'hôpital. Et quand elle se réveille, elle demande à son infirmière, mais did I flatline? C'est-à-dire, est-ce que j'ai perdu, en fait, est-ce que je suis morte? Est-ce que pendant un moment j'étais morte? Elle lui dit non, tu es tombée sur les jambes devant, donc tu t'es fait mal aux jambes, mais heureusement tu n'as pas flatlined. Et là, elle est hyper déçue de pas avoir flatlined. Et à partir de là, il se passe tout un tas de trucs et c'est hyper difficile à décrire parce qu'en fait, on revient dans une petite ville avec des petites choses, c'est des petites, des petits éléments. C'est vraiment au niveau d'une personnalité, de quelqu'un qui est un type un petit peu violent avec qui il va se passer des trucs, d'un professeur, une dame un petit peu qui est un peu dans bon point, donc tu sens qu'elle a une profonde tristesse quelque part dans sa vie, et comment ce personnage va toucher tous les autres. Et puis quand même, il va y avoir à un moment des éléments fantastiques, un truc qu'on va vouloir comprendre, on va vouloir essayer de savoir ce qui lui est arrivé à cette fille. Et là où la série est, à mon sens, une vraie réussite, j'étais hésitant jusqu'à la fin, parce que c'est un petit peu, elle aurait pu souffrir du syndrome Lost, c'est-à-dire on monte un truc incroyable et puis au final on réussit pas à finir, justement. Et
c'est la question que j'allais te poser, justement.
Ouais, et ben écoute, moi, je trouve que The OA réussit justement à naviguer juste sur cette frontière du trop n'importe quoi et du juste intrigant, et à conclure d'une manière qui, moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé absolument satisfaisante et même forte. Moi, c'était un coup de poing émotionnel, cette fin. Mais pas pour le côté science-fiction. C'est très difficile à décrire, vraiment. C'est très très difficile d'expliquer, sans spoiler, pourquoi ça fonctionne. Et encore une fois, c'est pas Lost parce que c'est pas ah, il y a un ours blanc qui sort de nulle part et puis le smoke monster et les machins comme ça. C'est pas aussi incroyable que ça. Mais il y a des éléments quand même qui nous font nous poser des questions et nous demander « Ah, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ?» etc. Et pourtant, tout tient, tout est cohérent, et au final, ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça termine la chose d'une manière qui a un sens cohérent, complet, et qui et une apothéose de tout ce que fait la série et de tout ce qui se passe dans la série. C'est une dizaine d'épisodes, donc c'est pas trop trop long. Encore une fois, on est plus proche du film dramatique indépendant que du super gros budget américain, du film, du blockbuster américain. Mais il y a une vraie qualité unique à cette série. Et quand je dis je veux faire une lettre d'amour à cette série, c'est que c'est le genre de truc, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais les gens qui l'aiment ne trouveraient ce genre de choses nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs, ce truc là et c'est pas, encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est pas éclatant, c'est pas ma série préférée de toute ma vie, c'est peut-être même pas une série préférée de l'année. Je pense qu'elle serait dans un top parce que elle a vraiment des qualités, mais c'est pas le truc qui va être sur toutes les listes de tout le monde. Mais il n'empêche, elle a des qualités et elle a une intelligence dans la manière dont l'histoire est menée, qui fait vraiment plaisir à suivre. Et puis surtout, il y a deux ou trois moments. Je crois d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, je suis désolé, j'ai pas fait mon travail. Je crois que c'était un roman avant d'être une série. C'est une web television series. Alors, écoutez, peut-être même pas, en fait. Excusez-moi, je lis en même temps. Non, en fait, c'est pas tiré d'un
une création originale.
Ouais, c'est une création originale, mais tu sens que ça a été écrit entièrement dès le début, quoi. Mmh. Ça a été pensé. Ah, mais c'est 8 épisodes, donc c'est en fait plus court même que je ne pensais. Ça a été pensé dès le début et il y a peut-être, je sais pas, 2 ou 3 moments dans cette série où, allez, je dirais 3 moments où vraiment on a ces coups de poing émotionnels, mais qui, moi, j'étais au bord des larmes, quoi, tellement ça, là j'en parle, ça me serre un petit peu la gorge, quoi, parce que il y a des moments où tout ce qui a été monté dans les épisodes précédents arrive à un petit moment simple, mais qui fait preuve d'une honnêteté, d'une vulnérabilité, comme on en voit rarement, même au cinéma, et avec tout cet enrobage surnaturel, fantastique, malgré tout, qui fonctionne, qui fait partie intégrante de l'histoire. Enfin, pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Je dirais, pour essayer d'expliquer encore un petit peu plus, de manière un peu plus complexe, il y a des séries ou des films où on sent qu'ils ont voulu mettre le réglage à 10 sur 10 ou à 11 sur 10 ou à 12 sur 10 et puis bon, ils arrivent à faire 6, 7 ou 8 quoi. Et donc c'est satisfaisant, mais tu vois que ils ont voulu en faire énormément et puis c'est pas. Là, ils ont mis le réglage à 8 et ils sont pile à 8 à tous les niveaux quoi. C'est parfaitement réussi pour ce qu'ils voulaient faire. Donc, bon, vous l'aurez compris, c'est difficile à expliquer, surtout sans raconter exactement de quoi il s'agit, parce que même s'il n'y a pas plein de grands mystères, je tiens à ce que les tout soit vous y arriviez vierge. Mais si ça vous a un petit peu intrigué, allez-y, je pense que vous le regretterez pas. Pardon, je t'ai interrompu, Guillaume.
Non, c'était moi qui allait t'interrompre parce qu'en fait, elle est très bien maquettée hein, par Netflix, elle est très bien mise en avant. Elle est dans ma watchlist de ce que je vais regarder. D'ailleurs, entre parenthèses, une reco à part entière dans Positron, ce serait de s'abonner au mois gratuit de Netflix parce que quand on voit tous les contenus, il y a de quoi faire.
C'est clair.
J'ai un collègue qui a vu le premier épisode, il m'a dit « Regarde pas, c'est nul », et pourtant il est très très cinéphile, donc je suis très intrigué. Et je relève dans ta description le fait... je pèse un petit peu mes mots. Je relève le fait que tu n'utilises pas le pitch qu'on voit partout quand on essaye de se renseigner sur cette série. Est-ce que c'est volontaire ?
Je sais même pas quel est le pitch parce que moi j'ai pas.
Bon, du coup, j'ose pas le dire parce que c'est peut-être un spoil. Cela dit, comme c'est un pitch qui est, comme c'est un info qui est dispo partout, je peux peut-être m'y risquer. Bah, mais
je dirais que j'imagine que le pitch c'est le premier épisode. Et ce qui se passe dans le premier épisode. Et moi, je veux même pas dire ce qui se passe dans le premier épisode parce que même ça fait partie du mystère, tu vois, et ça fait partie des questions que tu commences à te poser. Et je suis sûr, je vois à peu près de quoi il s'agit.
Du coup, j'ai une deuxième question à briquer, et puis après, on laissera les gens se renseigner ou pas, aller voir le synopsis, si ça les intéresse ou pas. Mais par rapport à cette description, est-ce que tout ça n'est qu'un prétexte, comme, et t'as le droit de dire, je ne te répondrai pas, mais est-ce que c'est un prétexte comme on peut le voir dans de nombreuses séries, il y a plein de séries qui posent un concept de départ qui est hyper intriguant et qui finalement n'est qu'un prétexte à tout dérouler une histoire et on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, mais l'histoire est quand même super intéressante, ou est-ce que quand même c'est en lien avec cet événement de départ? Je sens que tu vas me dire, je vais pas te répondre.
Le truc, c'est que, ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans la série. Je dirais que c'est pas le problème de ce genre de série. Quand on te pose des bases qui sont invraisemblables, c'est que tu peux jamais les expliquer. Jamais. Voilà, c'est ça. Tu peux pas expliquer pourquoi, ou alors si, enfin, tu peux dire il y avait un ours blanc sur l'île parce que sous l'île il y a une sorte de volcan dans lequel il y a de la neige. Ok, super, l'explication, merci quoi. J'aurais préféré pas l'avoir, tu vois. C'est ce genre de truc. Et là, ils expliquent pas tout, mais on va dire que 90% de ce qui est développé dans la série est développé de manière cohérente.
D'accord, ouais, ça c'est important.
Tu vois, même si c'est pas des explications, c'est cohérent. Tu comprends pourquoi on en est arrivé là pour 90% des trucs. Il y a une part de mystère qui reste, mais il y a beaucoup plus qui est expliqué que dans la plupart des séries de ce type. Mais bon, franchement, C'est peut-être une série, encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui vont s'emmerder, il y a des gens qui vont trouver que c'est trop lent, il y a des gens qui vont... Quand je disais c'est genre un drame indépendant, on est dans une petite ville des États-Unis avec toute cette galerie de personnages misérables, déprimés, qui vont essayer, qui vont se retrouver et qui vont vivre un truc ensemble, mais c'est pas, tu vois, c'est pas Stand By Me, quoi, c'est pas les Avengers qui vont se retrouver, qui vont faire plein de, qui vont vivre une aventure, c'est juste des relations et comment ils se développent entre eux avec ce fond, avec ce personnage principal qui joue un rôle hyper important et qui, enfin, c'est, bon. Encore une fois, c'est trop compliqué à décrire. Donc, vraiment, pour cette série, encore plus que pour d'autres, je crois que j'aimerais que les auditeurs qui l'ont vu ou qui l'ont vu suite à cette recommandation viennent me trouver sur Twitter, sur le site, sur Facebook et me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, comme c'est une série qui est pas très connue. J'ai pas eu l'occasion d'en parler trop avec des gens autour de moi et je serais très curieux justement d'avoir ce genre de discussion. Donc je vous encourage à le faire. Si vous vous lancez, dites-moi si ça vous a plu ou pas et puis pourquoi dans les deux cas de figure. Ah, je pourrais continuer à en parler pendant encore des heures, mais on va passer quand même à Jean pour qu'il nous parle, lui, de ce moment de joie qu'il veut nous décrire.
Alors oui, effectivement, donc tu voulais absolument avoir de la déprime, Guillaume, il y a deux semaines, donc tu vas, je pense, en avoir maintenant. Donc je vais vous parler de That Dragon Cancer, qui est un jeu vidéo, je mettrai entre guillemets le terme jeu vidéo, puisque c'est un objet vidéoludique. Alors, le terme jeu vidéo est approprié, puisqu'il y a à proprement parler du jeu vidéo dedans, mais pas que. Il y a beaucoup de narration. Donc, That Dragon Cancer, en fait, c'est un projet de Ryan Green, qui est père de famille, et donc avec sa femme, Amy. Ils ont plusieurs enfants, et leur dernier-né, Joel, à l'âge de 1 an, est diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Et quelques temps plus tard, eh bien, Ryan décide de raconter cette histoire sous forme de jeu vidéo. Il lance un Kickstarter et réunit des fonds pour pouvoir finir ce jeu vidéo. À cette époque, Joel est vivant. Donc, je vous spoil, hein, je suis désolé, mais c'est pas un secret pour personne. Joel, malheureusement, au terme de ses 3 années de vie, ne survivra pas. Et on va suivre l'histoire voilà, du début du diagnostic jusqu'à la mort de Joel et un petit peu après dans une sorte d'épilogue. Alors, voilà, j'étais très frustré que tu n'en aies jamais parlé, Patrick, mais j'en avais parlé avec toi et tu m'as dit que c'était pas possible pour toi. Donc, voilà, je tends la perche pour pouvoir parler de ce jeu qui m'a véritablement retourné. Déjà, au niveau esthétique, c'est très coloré. Curieusement, c'est très coloré, c'est très doux. C'est très, ambiance d'hôpital quand on veut pas te froisser, quand on veut, tout le monde est très gentil avec toi, tout le monde est, voilà. Et donc, on a ce genre d'ambiance un petit peu tout le long du truc. Alors, pas tout le temps, mais on va dire sur les 3/4 de la production, on a ce genre d'ambiance. Avec une musique, des fois sans musique, des fois avec une musique, pareil, très très douce, très très cocon, qui est joué exclusivement au piano, si ma mémoire est bonne. Et on va suivre tantôt le point de vue de Ryan, tantôt le point de vue d'Amy, tantôt le point de vue des médecins, tantôt même on se retrouve dans la peau de Joel. Et esthétiquement, on peut s'identifier à n'importe lequel de ces personnages, parce que ces personnages sont représentés sans visage, sont très polygonés, très simplifiés et sans visage. Donc on peut très très facilement s'identifier à ces personnages, même si moi je suis un homme et je peux m'identifier à Amy parce que elle dit telle ou telle chose, etc. Le jeu passe par plusieurs phases, enfin la narration passe par plusieurs phases. Donc d'abord, on apprend que Joel est malade, on apprend qu'il est en phase de rémission, puis il fait une rechute, puis ça va de plus en plus mal. Donc les parents vont partager aussi leurs espoirs, leur désespoir, leur foi. Et donc c'est un reproche qui a été fait au jeu, qui a été fait à la production, c'était que la dernière partie de The Dragon Concert est consacré à la foi et à la religion. Et une partie des joueurs l'ont mal pris. On dit non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas me retrouver. Moi, je suis pas chrétien, je suis pas machin. Alors moi non plus, je suis pas chrétien. Je suis sans religion. Et ça m'a absolument pas gêné puisque là, en fait, That Dragon Concert fait état de comment est-ce que une famille a traversé cette épreuve terrible qui est la perte d'un enfant par un cancer du cerveau. Il y a pour ponctuer tout au long du jeu des phases de jeu, de vrai jeu. Alors tantôt c'est une partie de cartes, de karting. On va avoir des ballons et on va voler comme ça, on va éviter les cellules cancéreuses. Alors c'est très poétique, hein, c'est très fait de toujours de manière poétique. Tantôt ça va être un jeu de plateforme dans lequel on va se battre contre le dragon cancer, donc d'où le titre du jeu. Parfois il se passe rien du tout. Je crois que c'est le deuxième chapitre qui commence par l'hôpital, où l'hôpital est vide. Il y a juste les bruits du moniteur cardiaque, une musique et une quantité incroyable de cartes disposées sur des fils au plafond, sur des commodes, sur des voilà, et on peut lire chacune de ces cartes. Et dans chacune de ces cartes, il y a un mot, parfois long, parfois court, de soutien à la famille par rapport à des gens qui ont vécu le cancer, qui ont guéri du cancer ou qui ont décédé du cancer, des familles, etc. Et tout ça, c'est vrai, et ça te fout un coup, mais alors terrible. Et alors, ça te permet en même temps d'accompagner cette famille et de comprendre ce que c'est. Et c'est pas de la curiosité malsaine, parce que là encore, beaucoup de critiques ont été faites dans ce sens-là, comme quoi, mais c'est scandaleux de faire un jeu là-dessus. On profite de la maladie et de la mort de son enfant pour se faire de l'argent, etc. C'est absolument pas le propos. Et d'ailleurs, Ryan Greene s'en est formidablement bien défendu au Video Games Award, là où il a reçu un prix. Il a eu un discours qui était juste au mot près celui qu'il fallait dire pour défendre sa production. Et pareil, il y a, je vais pas tout raconter, hein, mais il y a aussi ce moment où, parce qu'il faut savoir que les sons qu'on entend, les rires, les pleurs, les voix, ce sont les vraies voix des acteurs, de Ryan, de Joel, son fils, etc. Et il y a un moment pour qui n'importe quel parent est vraiment mais déchirant et on pleure vraiment toutes les larmes de son corps. Quand, pareil comme toi Patrick, j'en ai encore la gorge serrée, mais on accompagne Joël qui est vraiment très très mal en point et qui est en train de pleurer. Et enfin, Guillaume, tu le sais certainement, tu as peut-être déjà vécu une maladie bénigne, mais où ton enfant a très très mal et tu peux rien faire pour le soulager, il faut juste attendre que ça passe. Et voilà, et tu vis ça et c'est terrible parce que là, tu sais que ça ne va pas passer. Et comme ça, tu navigues d'espoir en désespoir, de foi en reniage de foi. C'est une très très belle histoire, très très triste, très dramatique, mais elle est formidablement bien écrite, elle est formidablement bien. On l'accompagne formidablement. C'est jamais choquant au point de vue visuel. C'est toujours très doux, c'est toujours dans la compréhension, c'est toujours dans la compassion. Et ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures si vraiment on lit tout. Alors c'est en anglais, donc. C'est pas un anglais très très non plus. Voilà, c'est. On peut facilement comprendre. Mais je pense que c'est quelque chose. C'est là encore un ovni, mais c'est quelque chose qu'on se. Alors, pas qu'on se doit de l'avoir fait parce qu'il faut pouvoir l'encaisser. Donc, déjà, voilà, moi je le recommande à toutes les personnes seulement qui peuvent l'encaisser et surtout, absolument pas aux nouveaux ou aux futurs parents. Jamais, attendez que votre enfant ait 2-3 ans, mais si vous êtes sur le point d'avoir un enfant, mais oubliez-le le temps que votre enfant grandisse un petit peu, parce que sinon vous allez être flippé, mais constamment. Mais voilà, c'est une histoire que je ne regrette absolument pas d'avoir fait, mais véritablement là, on en ressort, mais alors...
Lessivé, quoi.
Oui, voilà, voilà. En plus d'être complètement triste, lessivé, c'est, on n'a plus rien après. On a juste une envie, c'est de rien faire, de laisser le temps passer, le temps de digérer ça, et personne vient me parler. Enfin voilà, c'est voilà.
Ouais. Voilà. C'est, on le comprend. C'est compliqué effectivement, mais c'est une œuvre vraiment artistique à part entière, quoi.
Ouais, c'est ça. Faut absolument pas le voir comme profiter de la mort de quelqu'un pour. Enfin,
moi, je crois qu'il y a assez peu de gens qui disent ça.
Ouais, mais enfin, moi, tu vois, à l'époque où c'est sorti, ça a tellement pris d'ampleur.
On se pose la question, quoi.
D'ampleur.
C'est normal.
Voilà, voilà, ça a tellement pris d'ampleur et Ryan Greene a eu une réaction tout à fait appropriée en ne répondant quasiment pas à ses propos. Et je te dis, enfin, il me semble que tu l'as vu le discours des Games Awards.
Bien sûr. Oui, admirable.
Oui, oui. Et ben, voilà, il a juste dit ce qu'il fallait. Et enfin, là encore, avec lui, on avait les larmes aux yeux parce que quand tu l'entends parler, que tu as fait le jeu, mais c'est la voix du jeu. C'est voilà, c'est la voix que tu as accompagnée, c'est la voix que tu as soutenue. Alors même si tu fais pas grand chose, hein, tu te balades dans le jeu, c'est une sorte de point and click, hein, au final. Mais voilà, tu accompagnes et c'est à la fois terrible et poétique et ça n'arrête pas d'être très contradictoire dans ce que tu ressens parce que tu voilà c'est terrible et poétique.
Super.
Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà.
Oui, je vois ça. Très bien. Bah merci beaucoup Jean. Et enfin Guillaume, tu vas nous livrer la dernière recommandation de cette session. On t'écoute.
Quel honneur. Je croyais que l'intro, c'était trois trucs cool. On sait peut-être... non. Au passage, je regardais, parce que je connaissais pas du tout, et je regardais sur YouTube quand même les vidéos du jeu. Et alors, les sites qui ont noté le jeu se font incendier du fait d'avoir osé noter ce jeu, ce qui laisse beaucoup de débats, mais on va pas trop s'attarder là-dessus non plus.
Attends, juste Guillaume, si tu m'autorises une petite parenthèse avant, parce que j'ai échangé deux, trois tweets aussi avec Ryan Greene sur Twitter. Si jamais le jeu vous intéresse, ne le faites pas en let's play, mais surtout achetez-le, il vaut une dizaine d'euros, mais achetez-le parce que, ok, c'est un jeu de deux heures et si on va le regarder sur YouTube, mais franchement, ça tue le travail de Ryan Greene si on le soutient pas financièrement.
Ça semble logique compte tenu de l'histoire que tu racontes en tout cas.
Ouais.
Mais écoute, alors moi je vais essayer de terminer cette session de Positron le plus en beauté possible. Ça va être une manière de parler d'un univers qui m'a beaucoup apporté quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. C'est les jeux de rôle. J'en ai parlé à différentes reprises. J'essaie d'en parler régulièrement parce que moi, ça m'a permis de sortir d'une espèce d'enfermement un peu que je pouvais avoir à titre perso. J'étais pas non plus complètement seul au monde et déprimé quand j'étais ado, mais ça m'a permis de vachement prendre d'aisance et de m'ouvrir sur plein de sujets. Donc les jeux de rôle en général et plus particulièrement là, je voudrais vous recommander. Quoi de mieux pour un podcast que de recommander d'autres podcasts? Il y a deux types de podcasts qui vont répondre à ce concept de live play. Alors c'est un concept qui est beaucoup né évidemment aux États-Unis et qu'on commence doucement à voir arriver dans nos univers francophones. Le principe il est simple. Alors, il faut connaître le principe du jeu de rôle sur table d'habitude. Donc on se retrouve tous autour d'une table à vivre une histoire qui est animée par un meneur de jeu. Chacun a son personnage et tente de résoudre les actions du personnage avec des jets de dés notamment. Et donc on interprète un personnage, on essaie de vivre une histoire de la même manière qu'on vit un film ou qu'on lit un livre. Et il y a des petits malins qui se sont amusés avec la beauté des nouvelles technos aujourd'hui de mettre un micro au milieu de la table pendant leur partie et de diffuser ça notamment en podcast. Alors le premier ressenti qu'on peut avoir, c'est de se dire « Oulala, je suis pas certain que ce soit vraiment fascinant ». Et pour autant, on se fait vite prendre au jeu. Je vous invite notamment à aller jeter un coup d'œil du côté de deux podcasts en français. Alors le premier, contrairement à ce que j'ai indiqué dans la liste, je les ai inversés, je les renoterai, mais c'est P1PDD, les quatre lettres et le chiffre. P1PDD, c'est l'abréviation de pour une poignée de dés. Alors les podcastophiles avertis connaîtront peut-être Basingcast et Piouf. Et en l'occurrence, c'est Piouf qui a fait une campagne à part entière. Là aussi, je voudrais pas trop spoiler. Ce sera un peu le fil rouge de tout ce qu'on aura vu tous les trois ensemble, je pense, c'est de spoiler le moins possible. Je vous invite vraiment à écouter le premier épisode sans trop essayer d'anticiper ce qui va se passer et de vous laisser porter. Piouf a fait un montage complètement incroyable de vraies parties de jeux de rôle qu'il a fait avec ses proches, avec une qualité sonore complètement irréprochable et avec une bande originale. Enfin, il a sélectionné les musiques et il arrive à monter ça avec quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Ce qui me permet, du coup, d'oser recommander ce podcast-là à ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle et qui voudraient toucher du doigt les émotions ou les environnements qu'on peut vivre quand on fait du jeu de rôle entre copains. Si vous voulez essayer de toucher du doigt ce que c'est, à l'audio, je pense que ça vous permettra d'avoir un aperçu. Vous pouvez écouter pour une poignée de dés. Alors surtout, n'allez pas lire les commentaires, les discussions ou tout ce qui peut tourner autour de la campagne qui a été écrite et qui a été jouée. Je vous garantis un vrai scénario avec des vrais rebondissements, des vraies surprises. Est-ce que ça laissera place à une série Netflix? Je suis pas sûr, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc allez jeter un coup d'œil, donc un vrai clin d'œil pour ça. Et puis pour ceux qui, pour le coup, là, sont vraiment aguerris dans les jeux de rôle et ont envie d'en vivre plus au travers de live play parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour jouer et qui, pendant qu'ils font leur sport, ils veulent écouter du jeu de rôle, vous pourrez peut-être aller jeter un coup d'œil du côté de Club JDR. Donc c'est le podcast de Jean-Michel Abrassard qui anime aussi un podcast qui s'appelle Scepticisme Scientifique. Donc là aussi, c'est du live play de jeu de rôle. Il y a toute une campagne de l'appel de Cthulhu qui l'a enregistré et qui l'a diffusé en podcast, notamment la campagne Par-delà les montagnes hallucinées, qui fait écho à une nouvelle de Lovecraft. Donc vraiment, vraiment quelque chose qui peut plaire aux rôlistes, puisque le terme est désormais rentré dans certains dictionnaires. Et puis plus récemment, il anime aussi une campagne qu'il diffuse aussi dans Club JDR, qui est celle de l'Anneau Unique, donc dans l'univers de Bilbo le Hobbit. Ceux qui veulent découvrir le jeu de rôle pourront se tourner vers là.
C'est marrant, tu dis rôliste. Figure-toi que j'ai travaillé pendant quelques années chez Blizzard avec la personne qui est créditée pour l'invention du mot rôliste, Pierre Rosenthal, qui travaillait, qui s'est retrouvé chez Blizzard, avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps. Et ouais, c'est enfin bref. Donc oui, c'est bien un terme effectivement qui existe. Et moi, j'ai été grand fan de jeux de rôle pendant longtemps, donc ça me parle également. Et je peux tout à fait imaginer que si les joueurs sont bons et marrants, ça peut faire des émissions vraiment distrayantes. Donc
ouais, P1 PDD est une vraie reco, même sur la qualité audio. C'est vraiment quelque chose à écouter.
Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume, et puis bah merci à vous deux pour ces quatre épisodes d'une qualité absolument incroyable que
c'était les meilleurs positrons, je crois.
Ah bah,
de toute façon,
oui. Je crois, bon, on demandera l'avis des auditeurs, mais à mon sens, je crois qu'ils sont indubitablement les meilleurs et qu'ils seront difficiles même à surpasser. Ça va être compliqué pour moi de suivre cette série, mais on essayera. Mais quoi qu'il en soit, si les auditeurs veulent en avoir plus de vos productions, eh bien une dernière fois, si vous pouviez nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Jean. Vas-y.
Eh bien, on me retrouve toujours sur mon site Papa Podcast, où là, on vient de sortir le dernier numéro de Papa à quoi on joue, où vous allez pouvoir retrouver au moins 3 ou 4 conseils de jeux à faire avec vos enfants. Alors, pas forcément des jeux vidéo, hein, ça peut être aussi des jeux de plateau, et on essaye d'aborder le jeu pour tous les âges. Donc voilà, et sinon, j'ai Papa à quoi tu joues, aussi sur le même site, qui est du jeu, principalement la vidéo, pour les adultes.
Magnifique. Guillaume, à ton tour.
Vous allez sur Google, vous tapez Guillaume Vendée, logiquement vous devrez retrouver assez facilement mes comptes de réseaux sociaux, et puis pour les podcasts dans lesquels ma voix intervient, vous pouvez écouter Tech Café, Relife ou de manière un petit peu plus intimiste, La Voix de Guillaume, un streetcast que j'anime le plus régulièrement possible avec des petits épisodes du quotidien de quelques minutes.
Magnifique, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Jean, merci à vous tous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook, toujours sous le doux pseudonyme de Note Patrick, et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr ou dans votre votre app de podcast préférée. Et vous pouvez laisser des commentaires ou trouver d'autres émissions qui vous plairont, j'en suis sûr, sur frenchspin.fr. Je rappelle encore une fois que si vous avez apprécié ou pas apprécié l'IOA suite à cette recommandation ou même avant, venez m'en parler dans les notes de l'émission, ça me ferait très, ou sur Twitter ou sur Facebook, comme je disais, n'importe où, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié autant que moi ou pas, ou si vous avez des choses à dire. Bien sûr, comme toujours, sur les recommandations en général de cet épisode, vous pouvez le faire, je le rappelle une dernière fois, sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on sera de retour dans environ 15 jours avec une autre équipe qui sera forcément moins bonne.
Forcément.
Indubitablement.
Évidemment. Mais on essaiera de s'en accommoder. Merci à tous. À dans 15 jours. Ciao, ciao.
Ciao à tous.
Ciao à tous.